Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, bien chers fidèles, les textes liturgiques de ce dimanche nous font entendre une épître qui vous est sans doute familière, puisqu'elle revient dans la messe du Sacré-Cœur, du moins en partie. De cet enseignement de saint Paul, extrêmement dense, qu'il donne aux Éphésiens, nous ne retiendrons qu'un point de doctrine. L'Église comme manifestation de la bonté de Dieu. Si, au dire du grand apôtre, les anges eux-mêmes trouvent à la vue de l'Église un motif nouveau de chanter la gloire du Créateur, combien plus nous qui sommes fils de l'Église devons-nous nous y intéresser? L'Église donc manifeste la bonté de Dieu d'abord par sa catholicité, c'est-à-dire son universalité. Le bon Dieu désire en effet le salut de tous les hommes, et c'est pour cette raison-là qu'il a fondé une Église universelle, destinée à évangéliser la terre entière. D'ailleurs, notre Seigneur dit à ses apôtres, juste avant son ascension, juste avant de nous quitter, « Allez, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai dit. Et moi, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. » Le salut des âmes, de toutes les nations, c'est même la raison d'être de l'Église, ce pourquoi elle a été essentiellement fondée. D'ailleurs, c'est pour n'avoir pas compris cela que les Juifs ont rejeté l'enseignement de notre Seigneur, les Juifs qui étaient habitués à être le peuple élu, à l'exclusivité, à l'exception de toutes les autres nations. Et pourtant, le bon Dieu avait déjà cherché à les initier à ce mystère de son amour, de sa bonté infinie qui s'étend à tous les hommes. Dans une histoire que vous connaissez certainement, celle de Jonas, et qui nous donne une grande leçon. Jonas, donc, qui était allé prêcher la pénitence à Ninive, leur annonçant que s'il ne se convertissait pas, la ville serait détruite dans 40 jours. Sa prédication fut un succès. Les Ninivites se convertirent et Dieu leur pardonna. Et alors, le prophète Jonas en fut très mécontent. Comment le Dieu de justice pouvait-il pardonner à ces païens, à ces pécheurs, et cela après une pénitence si courte? Alors, le bon Dieu lui donna une leçon qui nous sert à nous aussi. Jonas s'était retiré un peu à l'extérieur de la ville pour contempler la destruction qui n'arriva pas finalement de Ninive. Et alors Dieu fit pousser au-dessus de son petit abri un ricin, une petite plante, qui le couvrit de son ombre et qui le protégea des ardeurs du soleil extrêmement chaud en ce pays. Mais la nuit suivante, un ver vint piquer la racine de la plante qui se dessécha très rapidement et laissa Jonas bien mécontent et il s'en plaignit amèrement. Alors, Dieu en profita pour lui adresser la parole. Tu t'affliges au sujet du ricin pour lequel tu n'as pas travaillé et que tu n'as pas fait croître, qui est venu en une nuit et qui a péri en une nuit. Et moi, je ne m'affligerai pas au sujet de Ninive, la grande ville dans laquelle il y a plus de 120 000 hommes. Oui, le bon Dieu cherche le salut de toutes les âmes, de toutes les âmes. Évidemment, on pourrait s'étonner dans la situation actuelle en se demandant si la Providence veut que toutes les nations soient évangélisées, pourquoi permet-elle que nous en soyons là aujourd'hui? Pourquoi permet-elle que l'Église soit réduite à presque rien? Eh bien, le mystère vient non tant de Dieu que des hommes. C'est un mystère qui nous donne le vertige, non parce qu'il est trop lumineux pour nos yeux, comme le sont les mystères divins, mais parce qu'il est trop sombre. C'est le mystère d'iniquité, le mystère du péché. Alors que Dieu a confirmé l'évangile du salut par une multitude ininterrompue de miracles, par l'accomplissement de nombreuses prophéties, par l'envoi d'une foule de saints tout au long de l'histoire de l'Église, eh bien, malgré tout cela, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, ils ont préféré le péché à la sainteté, ils ont préféré un plaisir d'un instant plutôt que le bonheur éternel. Mystère donc, mais qui vient des hommes qui refusent le salut donné, offert par Dieu. Mais remarquons que du côté de Dieu, eh bien, il a vraiment tout fait pour le salut de toutes les âmes. C'est donc entièrement de la faute des hommes si l'Église n'est pas aujourd'hui répandue jusqu'aux confins du monde et parmi toutes les nations reconnues comme telles. Cette présence du péché dans le monde nous amène d'ailleurs à une deuxième manifestation de la bonté divine dans la Sainte Église. C'est selon saint Paul que Dieu montre son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Et remarquons que ce n'est pas seulement l'innocent qui meurt pour des coupables, mais bien l'offensé qui donne sa vie pour les offenseurs. Dieu qui se sacrifie pour ses créatures pécheresses. Et si nous nous arrêtons quelques instants pour considérer ces enseignements, nous remarquons que nous nous trouvons devant un abîme, abîme de la miséricorde de Dieu, de la bonté de Dieu. Ce mystère qui provoque l'admiration de saint Paul et qui devrait aussi provoquer la nôtre, lorsqu'il dit notamment, lorsqu'il parle de la largeur et la longueur, de la profondeur et de la hauteur de l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Ce mystère de Dieu qui nous éblouit, qui nous dépasse totalement. Et on peut se demander si on y pense assez. Ce pardon divin que nous sollicitons si souvent, et avec raison, eh bien ce pardon ne nous est pas dû. Et c'est important de nous le rappeler, parce que malheureusement, à force de le demander, et aussi à cause de ce monde qui divinise l'homme allant contre Dieu, tend à nous faire oublier ces vérités. Non, le pardon de Dieu ne nous est pas dû. C'est vraiment un acte de la miséricorde, un acte entièrement gratuit de la part de notre Père du ciel. Alors, il est important d'y revenir souvent, de le méditer, de le contempler, comme à l'oraison qui est très utile pour le salut de nos âmes. Il faut nous en imprégner pour remercier le bon Dieu d'abord et aussi pour enflammer notre charité envers Dieu. C'est un moyen très efficace de réfléchir sur ces vérités. Enfin, nous trouvons dans l'Église une troisième manifestation de l'amour divin, dans la sollicitude avec laquelle la Providence s'occupe de chacune de nos âmes. Chacune d'entre elles est unique aux yeux du divin Maître. Le bon pasteur connaît ses brebis, chacune par son nom. Propria sabes vocat nominatim, chacune par son nom. Notre Seigneur insiste d'ailleurs sur cet enseignement dans une parabole, celle de la brebis perdue. Qui d'entre vous, ayant 100 brebis, s'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et quand il l'a retrouvée, il la met sur ses épaules, tout joyeux, et de retour à la maison, il convoque les amis et les voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Non pas bien sûr que notre Seigneur abandonne les justes pour s'occuper des pécheurs, mais dans cette parabole, un peu paradoxale, il veut nous faire comprendre la sollicitude divine qui s'occupe vraiment de chacune des âmes, de chacun des pécheurs, même du dernier d'entre eux. D'ailleurs, cette attention de la Providence à l'égard des âmes éclate particulièrement dans l'Église pour ses fidèles. On le voit bien notamment par les sacrements qui se donnent généralement individuellement. C'est une à une que la divine Providence fait entrer ses brebis dans son bercail par le sacrement de baptême. Dans la confirmation, notre Seigneur demande à l'évêque de se pencher sur le moindre de ses fidèles pour les fortifier contre les tentations, contre les attaques du démon et du monde. Dans le sacrement de pénitence, la confession, ce n'est pas par une absolution collective que le bon Dieu veut se réconcilier les pécheurs, comme le pensent certains conciliaires, bien à tort. Non, mais c'est, là encore une fois, une à une que notre Seigneur, par l'intermédiaire du prêtre, entend les pécheurs, les encourage, les pardonne. Et puis, surtout, c'est dans le sacrement de la Sainte Eucharistie, bien sûr, qu'éclate la bonté de Dieu. Notre Seigneur se donne tout entier à chacun d'entre nous, avec son corps, son nom, son âme, sa divinité. Avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et bien sûr, il se donne à nous sous la forme de la nourriture. La nourriture qui nous représente, la bonté avec laquelle notre Seigneur s'unit entièrement à nous. En conclusion, une conséquence pratique. Dans son sermon sur la montagne, notre Seigneur résume toute la morale chrétienne dans son aspect le plus élevé, lorsqu'il dit « Soyez parfaits comme mon Père céleste, comme votre Père céleste est parfait ». C'est-à-dire que la perfection chrétienne consiste à reproduire en nous, par la grâce, les perfections même de Dieu qui ont été manifestées visiblement en notre Seigneur. Alors, cela veut dire que nous devons chercher le salut des âmes, comme Dieu lui-même, comme notre Seigneur, cherche le salut des âmes. Nous devons être apôtres, nous devons chercher à propager autour de nous le règne du Christ roi, dans nos familles d'abord, dans notre milieu de travail autant qu'on le peut, et aussi partout autour de nous. Comment ? Eh bien, d'abord par l'exemple, et ensuite par la prière, par l'esprit de pénitence. Vous connaissez certainement cette parole que Notre-Dame de Fatima adressait aux trois bergers. Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui prie et se sacrifie pour elles. Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie et se sacrifie pour elle. Alors demandons à Notre-Dame de Fatima de comprendre ces vérités, celle de la bonté infinie de son Fils envers les âmes, et puis aussi de l'imiter dans la mesure de notre possible, par nos prières ferventes, par notre exemple, par l'esprit de sacrifice. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.